vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre, Vieillir chez soi, d'Aurélie Aulagnon et Lucie Briat, publié aux éditions Tom Pouce. Comme l'annonce son titre, Vieillir chez soi, c'est le choix plébiscité par une majorité de personnes âgées, mais cela demande un certain nombre de réflexions et d'adaptations. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec les auteurs du livre, Aurélie Aulagnon, orthophoniste, consultante en gérontologie, formatrice et conférencière. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Lucie Briat, orthophoniste et chargée d'enseignement en orthophonie à l'ISTR de l'Université de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors j'ai résumé évidemment en quelques mots votre ouvrage, mais je vous laisse évidemment la parole pour nous expliquer l'essence même de ce livre. Aurélie, on peut commencer par vous peut-être.
Eh bien déjà, merci pour l'invitation à échanger sur notre ouvrage. L'essence de ce livre, elle est née de la rencontre avec Lucie. Donc j'ai été orthophoniste en libéral comme Lucie, et après j'ai évolué sur un parcours de consultante et de formatrice pour accompagner justement les acteurs du grand âge et mêler justement mon regard de consultante et d'orthophoniste avec tout ce qui est du virage domiciliaire, hein, ce qu'on appelle maintenant le fait de pouvoir maintenir les personnes chez elles, alors plutôt soutenir que maintenir, me paraissait important de pouvoir justement donner des clés parce que je ressentais un besoin chez les personnes accompagnées et chez les aidants notamment. Et en même temps, Lucie a proposé, et je trouve l'idée formidable, de pouvoir apporter le regard orthophonique de comment est-ce qu'on accompagne une personne qui va présenter des pathologies liées à la vieillesse. Et comment accompagner, notamment dans un contexte de désert médical où on n'a pas forcément accès à des soignants, à des orthophonistes, et comment aussi se positionner soit entre quand on est un futur vieillissant ou quand on est un aidant auprès d'une personne qui présente des pathologies liées à la vieillesse, ou juste se préparer à ce qui peut éventuellement arriver. Voilà, à peu près l'idée du livre.
Vous vouliez compléter, Lucie ?
Oui, alors pour compléter ce qu'a très bien décrit Aurélie, effectivement, ce livre, il est parti vraiment des besoins du terrain. Alors du coup, pour ma part, je l'ai plus expérimenté depuis 15 ans en tant qu'orthophoniste auprès de familles, auprès de personnes donc âgées, auprès de leurs aidants, que ce soit voilà la famille même ou que ce soit aussi les personnes qui sont impliquées dans la vie de tous les jours, je pense notamment aux infirmières, aux aides à domicile, qui peuvent être auprès de personnes rencontrant par exemple des difficultés de communication, des difficultés d'exécution, des difficultés de mémoire et plus largement d'autres problématiques au niveau de la santé ou sur le plan social, et qui du coup se retrouve plongé dans un univers qui est constamment en mouvement avec, à notre sens, voilà, des informations qui sont souvent un peu éclatées partout, qu'il est difficile en fait de pouvoir avoir en un seul ouvrage, et c'est ce qu'on a tenté avec beaucoup d'humilité, hein, on ne prétend pas répondre à toutes les questions bien entendu, mais pour apporter vraiment un ouvrage qui donne un regard sur des thématiques telles que le logement, telles que des aides financières, telles que l'accompagnement sur la communication, pour que ces personnes puissent ensuite savoir vers qui s'orienter, vers qui s'adresser quand elles rencontrent une difficulté ou un besoin particulier.
Alors Lucie, ça peut paraître évident et pourtant vieillir chez soi demande de réfléchir à quel genre de choses ?
Alors, vieillir chez soi, du coup, il y a deux termes qui forcément m'interpellent lorsque vous dites. Il y a celle de vieillir. On est tous en cours de vieillissement, quel que soit notre âge. Et du coup, déjà, nous, notre idée, c'était de sortir de l'image d'un vieillissement forcément pathologique, forcément négatif, puis avoir une connotation très positive aussi dans le vieillissement. Mais on sait qu'avec le vieillissement, il y a certains changements qui peuvent s'opérer et parfois, dans certains contextes, effectivement, la maladie qui s'installe en plus, voire le handicap. Donc, tout va dépendre de la situation de la personne, mais aussi de ses besoins, de ses envies, de sa personnalité et de son état de santé lié à l'âge ou non. Et chez soi, effectivement, c'est une problématique d'autant plus particulière, c'est que chez soi, ça peut évoquer un domicile où on a vécu pendant des années et des années et qui peut, à un certain moment donné, ne plus être adapté aux capacités de la personne, à ses besoins. Et du coup, l'idée de l'ouvrage, c'était de pouvoir donner des premiers conseils. Bien sûr, ça ne remplace pas la vie des professionnels, mais des premiers conseils pour savoir justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quand on peut commencer à présenter certaines difficultés. Voilà, c'est vraiment des choses très pratiques pour pouvoir accompagner du coup des personnes âgées et également leur entourage.
Un mot peut-être, Aurélie, de votre côté ?
Comme l'a dit Lucie, hein, le vieillissement, c'est à la fois du pathologique, mais c'est aussi du physiologique. Et quand on se retrouve simplement en difficulté pour reprendre une douche, c'est pas forcément qu'on est malade, on est juste en perte d'autonomie. Ça, ben, ça permet aussi de revoir, de voir les personnes sous un autre angle et de se dire qu'on n'est pas forcément malade. Et le guide, parce que vraiment, je le vois vraiment comme un guide, permet de trouver les bons interlocuteurs. Là, on est vraiment sur tout de suite qu'est-ce qu'il peut faire. Lucie l'a très bien décrit. Et puis aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on vieillit chez soi, vieillir chez soi ne veut pas dire que on reste jusqu'au bout vraiment chez soi. Quand on doit médicaliser par exemple une maison, on perd un petit peu notre identité aussi, notre pouvoir d'agir dans notre domicile. Et ça aussi, c'est ne pas cacher cette vérité là, c'est-à-dire un petit peu démystifier le fait que vieillir chez soi, ça implique beaucoup de choses derrière, et que ben c'est aussi par rapport à la démystification des EHPAD notamment, et ça permet d'envisager quand même d'accompagner le changement de mentalité aussi sur vieillir chez soi. Et comme l'a dit Lucie, ça va être à la fois du côté social, hein, les aides, qu'est-ce qui existe, les syndromes, hein, on a parlé du syndrome de Diogène, de Noé dans l'ouvrage, hein, qui peuvent se présenter, qu'on n'associe pas forcément à la vieillesse, mais qui de fait apparaissent quand on se retrouve isolé chez soi. Et tout le côté sanitaire, comment est-ce qu'on peut agir quand on commence à présenter des difficultés, comment est-ce qu'on peut accompagner. Et ces deux pendants-là, vraiment social et sanitaire, apparaissent vraiment dans l'ouvrage.
Alors, quelle est la difficulté principale à vieillir chez soi ? Finalement, quels sont les mythes et quelle est la réalité, Aurélie ?
Bah, j'ai abordé un petit peu le sujet, hein, en filigrane, hein, le fait qu'on imagine que vieillir chez soi, c'est venir que tout va être mis en place, hein, tout seul, avec des infirmières si besoin, ou tout de suite on aura besoin d'adapter notre douche, on a quelqu'un qui va la faire tout de suite. Malheureusement, dans la réalité, suivant le lieu où on habite, suivant les finances dont on dispose, le résultat ne sera pas le même. Donc ça, c'est un premier mythe, la rapidité d'action et le tout adaptable. Ça, c'est un premier mythe. Et puis, chez soi, c'est pas forcément que son logement. Chez soi, c'est aussi au cœur de son quartier, aussi au cœur de son village, au cœur de sa ville. Et chez soi, c'est pouvoir aussi rester chez soi et y aller et en sortir. Donc, on a tout l'aspect mobilité, tout l'aspect social, tout l'aspect associatif, tout l'aspect utilité dans la société. Et c'est ça aussi qui nous tenait à cœur vraiment de mettre en valeur. C'est qu'attention, on pourrait très bien vouloir rester chez soi au fin fond, je sais pas, du Jura ou tout ça, mais dans les faits, bien sûr que la maison sera adaptable, mais est-ce que, par exemple, des soignants peuvent venir faire une toilette? Est-ce que la personne peut se rendre chez son orthophoniste parce qu'elle présente un Parkinson? Voilà, c'est tout ça qu'il faut aussi envisager et qu'on aborde dans l'ouvrage.
Pour compléter ce qu'a dit Aurélie, effectivement, je pense que dans les mythes qui perdurent, je pense que voilà, encore une fois, il y a l'image du vieillissement, voilà, qu'à notre échelle, on essaye du coup d'aborder dans cet ouvrage, sans effectivement tomber dans le tout est beau, tout est rose. Mais en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas une réponse au vieillissement. Il n'y a pas une réponse qui va à chaque personne. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'aborder à travers tous ces différents thèmes. C'est qu'en fait, selon l'état de la personne, il n'y a même pas d'histoire finalement d'âge. À quel âge ça commence vraiment, finalement, ce que je vous disais, on vieillit tout le temps. Mais forcément, plus on avance en âge, plus on peut voir des modifications liées au changement physiologique du corps. Et puis ensuite, liées au contexte, ce qu'a très bien dit Aurélie, à l'isolement qui peut apparaître, qui n'apparaît pas toujours, mais qui peut apparaître. Ensuite, avec tout ce que ça peut engendrer derrière, etc. Et finalement, je pense que dans les messages forts, c'est de se dire il n'y a pas une solution pour tout le monde. Et ensuite, chaque personne âgée, chaque personne qui vieillit, doit pouvoir avoir, nous, dans notre idéal, d'abord pouvoir accès à différentes solutions et prendre en considération ses besoins le plus longtemps possible chez elle, si elle le souhaite, parce que ça peut faire partie des souhaits de la personne. C'est le cas d'une grande majorité de personnes, mais ça n'est pas forcément non plus. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de faire passer comme message et de se dire, bah, du coup, plus on anticipe les changements, plus on anticipe ce qui est à venir, mieux ça peut se passer parce que on va pouvoir prendre en compte la vie de la personne le plus longtemps possible. On va pouvoir anticiper d'éventuelles difficultés qui pourraient apparaître. Le fait de maintenir un cercle social, ça aussi, un cercle familial éventuellement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le maintien également des capacités cognitives. adapter le logement, on en a parlé, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'anticiper bien au-delà de la situation malheureusement à laquelle on arrive parfois, que au moment où une personne âgée chute, qu'on va à ce moment-là mettre en place des choses. Et en fait, plus on anticipe tôt, et mieux on l'anticipe, et mieux ça se passe en général.
Quand on souffre de la maladie d'Alzheimer, plus précisément, que faut-il prendre en compte absolument pour vieillir chez soi, Lucie ?
Donc la maladie d'Alzheimer, justement, ça c'est vraiment une question de santé publique qui est primordiale, puisque c'est vraiment une des premières maladies neurodégénératives. Qu'avec le vieillissement de la population, on sait que de plus en plus de personnes sont concernées en nombre. Et ce qui est important de prendre en compte, du coup, quand on vieillit chez soi, c'est justement déjà avoir une surveillance par rapport à l'évolution de la personne, par rapport à l'évolution de ses capacités, de ses besoins, de son bien-être aussi. Ça, d'une façon générale, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu faire passer dans le livre, c'est qu'en fait, une personne âgée, ça reste une personne jusqu'au bout, et que prendre en compte ses envies, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et le fait de vieillir chez soi, ça peut permettre à la personne de garder ses repères dans une maison où elle a vécu pendant longtemps, etc. Donc avec des aménagements parfois très simples, on peut, autant que faire se peut, adapter le logement et faire en sorte que le repérage au niveau du temps, de l'espace se fasse le mieux possible. Bien sûr, ne pas hésiter à se faire accompagner par du personnel, soit des aides ménagères, des aides à domicile, mais aussi du personnel soignant. Et pareil, de la même façon, ce qui est rappelé Aurélie, c'est que vraiment, on est dans un objectif aussi de prévention. C'est qu'il y a des groupes, des ateliers mémoire qui existent. Il peut y avoir des prises en charge, je le vois en tant qu'orthophoniste, du coup, qui se mettent en place aussi en individuel ou en groupe pour justement prévenir tout ce qui va être difficulté de mémoire. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faudrait faire, en tout cas, le plus tôt possible, pour justement que la personne puisse rester dans un environnement sécurisé et qui lui permette d'évoluer le plus longtemps possible, en tout cas.
Aurélie, vous vouliez rajouter quelque chose ?
J'ajouterais en plus deux choses par rapport à ce qu'a dit Lucie. On aborde aussi quand même beaucoup le côté des aidants, mais le côté matériel, c'est-à-dire quelles sont les solutions de répit, parce qu'on sait combien le rôle des aidants familiaux est primordial dans l'accompagnement des personnes en maladie d'Alzheimer. Et tous les dispositifs sont malheureusement assez peu connus. Donc on les aborde justement dans l'ouvrage pour donner des clés et savoir au moins que ça existe pour pouvoir se projeter dans des moments de repos. Et l'autre précision, c'est aussi qu'on aborde des conséquences collatérales à la maladie d'Alzheimer. Je pense notamment aux troubles de déglutition, qui sont quand même très fréquents dans la maladie d'Alzheimer, et on en parle, et justement ça participe aussi tout ce qui est maintien de l'alimentation et tout le lien à l'alimentation permet, et au langage, vont permettre aussi de connaître aussi la maladie sous cet angle-là et pouvoir anticiper et accompagner simplement de manière optimale la personne. Voilà.
Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous avez quand même un petit truc pour bien communiquer avec la personne souffrant d'Alzheimer, sachant que la communication, on le sait, hein, c'est là où le bât blesse en premier, Aurélie ?
Moi, s'il y a un conseil à donner, c'est juste rester soi-même. C'est-à-dire que, comme l'a dit Lucie, une personne qui a mis d'Alzheimer, ça reste une personne. Et être soi-même, c'est juste pouvoir continuer à transmettre ses émotions à la personne. Et ça, ce serait le seul conseil que je pourrais donner.
D'un point de vue de professionnel, effectivement rester soi-même et s'adresser à la personne en tant que personne, c'est-à-dire que faire attention à son débit de parole, formuler des phrases courtes, oui, des phrases simples bien sûr, mais continuer à s'adresser à elle, du coup de la même façon qu'on l'a toujours fait, au risque sinon d'avoir une communication qui peut paraître un peu artificielle et qui va du coup perdre sa richesse en émotions, en liens. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile de trouver ce juste équilibre et qui s'apprend, qui peut être aussi accompagné via un accompagnement par des professionnels. Et avoir un sujet de conversation à la fois, ça aussi, ça fait partie des conseils qu'on rappelle dans cet ouvrage. Éventuellement, avoir des supports visuels aussi pour accompagner ses dires, pour permettre à la personne de resituer certains visages, par exemple. Ça peut être des choses très pratico-pratiques qui permettent du coup de maintenir autant que faire se peut, selon l'état de la personne aussi, selon le degré d'avancement de la maladie, une communication la plus riche possible, s'adresser à elle vraiment comme on s'adressait avant et ne pas surarticuler, par exemple, ne pas parler forcément
hurler
plus fort ou vraiment. Essayer de faire en sorte au mieux de s'adapter à la fois aux difficultés que la personne peut rencontrer, effectivement, Et puis en fait, s'il y a un échec de communication, ça peut arriver, la personne est fatiguée ce jour-là, essayer de dédramatiser les choses et de revenir sur le sujet à un autre moment et faire en sorte que ça se passe du mieux possible dans le plaisir de la communication et dans l'échange.
Alors même si chaque cas est différent, quels signaux nous disent que ce n'est plus possible de rester chez soi ?
En fait, je vais vous dire deux anecdotes qui se rejoignent, qui sont complètement les mêmes depuis la sortie de l'ouvrage. Deux personnes qui m'ont contacté, dont des amis, qui m'ont contacté pour me raconter la même chose, à savoir une grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et un grand-père dépassé, par amour pour la femme, sa femme, préférait s'oublier lui-même. Et enfermée, du coup, parce qu'il fallait qu'elle reste chez soi, cette femme-là. Dans les deux cas, je leur ai dit la même chose, à savoir, il est où le geste d'amour quand justement les deux s'oublient finalement, et que quand on voit, par exemple, quand on est dans un EHPAD, dans un service dédié justement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les personnes retrouvent une certaine liberté, chose qu'on oublie un petit peu chez soi, parce qu'on a peur qu'elle s'en aille, on a peur qu'elle fuit, qu'elle se fasse mal, on a tendance à la protéger. Or, en fait, finalement, c'est la liberté, ce sont des personnes souvent qui déambulent. En EHPAD, elles retrouvent cette liberté et le sourire. Et finalement, retrouver, c'est quand les liens, à mon sens, les liens familiaux, les liens de proximité se distendent. À mon avis, mon sens, le signe, il va être là. C'est-à-dire qu'on n'en est plus le mari et la femme, on est complètement assimilé à un objet d'aide. Et là, à mon sens, c'est un des signaux qui vont vraiment permettre de dire là, on peut plus. Et il faut se dire que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec d'accompagner une personne dans un établissement. Au contraire, c'est pouvoir retrouver une vraie communication. Et ça, Lucie l'a évoqué, la communication dans la maladie d'Alzheimer, c'est très important. Et elle devient totalement superficielle vers la fin de la maladie. Or, on peut retrouver cette communication-là avec se retrouver quand on en a envie, non parce qu'on le subit. Et à mon sens, quand on en est là, mais ça demande beaucoup de recul de la part des aidants, d'où l'accompagnement vraiment primordial, le rôle du médecin traitant notamment, pour pouvoir repérer ces signaux-là, d'épuisement des aidants, le rôle des aides à domicile, et toute personne qui aura un regard un peu plus extérieur à la situation, qui va pouvoir repérer les signes de fatigue de la part des aidants. Sachant que la priorité reste la personne malade, enfin du moins qui présente ces troubles-là, et qui pour elle vraiment arriver à se déculpabiliser de la part de l'aidant pour se dire sa place, elle est peut-être là où elle pourra vraiment être libre de ses mouvements.
Comme a dit Aurélie, c'est vraiment une question de sphère, alors je dis familiale mais au sens large, ça peut être aussi l'entourage. Il n'y a pas finalement une seule réponse possible, à mon avis, à votre question, et que ça va vraiment dépendre de chaque situation, et je pense que ça évoque aussi vraiment cette différence aussi entre maladie et handicap. On peut avoir une maladie avec des compensations qui sont efficaces, on peut avoir des troubles de mémoire légers et qui sont bien compensés avec un entourage qui est très présent, avec la mise en place d'aide qui marche bien, qui permettent à la personne de continuer à vivre de la meilleure façon possible, donc avec un handicap qui va finalement rester modéré. Et on peut avoir, en général, plus la maladie est un degré sévère, plus le handicap important, mais on peut aussi avoir une personne qui présente les mêmes troubles de mémoire, mais avec un handicap plus important, parce que c'est une personne qui va être isolée, c'est une personne qui ne va pas avoir forcément d'aide autour pour pouvoir l'aider dans ses repas, dans sa vie quotidienne, etc. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra se poser la question jusqu'à quel point la personne elle est bien chez elle, jusqu'à quel point elle ne se met pas en danger ou elle ne met pas en danger les autres aussi. Mais du coup, c'est vraiment une question qui est très large et qui dépasse uniquement le point de vue de la maladie. Mais vraiment, je pense, liée aussi à cette notion de handicap derrière qui va dépendre de chacun.
Du coup, votre livre, à qui s'adresse-t-il particulièrement ?
Alors, c'est un ouvrage qu'on a voulu vraiment destiné à plusieurs types de personnes, donc déjà aux personnes âgées elles-mêmes, quel que soit leur stade dans le vieillissement et en cours de vieillissement, on va dire. Donc ça peut être des personnes de tout âge qui ont envie, qui ont des questions, qui se posent des questions, mais c'est également pour leurs aidants, pour les familles, pour l'entourage social. Mais aussi plus largement, c'est un ouvrage qu'on a souhaité aussi pouvoir être... être parcourue par tous les professionnels de santé, les professionnels de la demi, parce qu'on s'est rendu compte que là aussi, il y avait des grandes disparités dans les formations initiales et dans les formations continues des professionnels. Et prendre l'exemple forcément d'orthophonie, en fait, on a des champs qui sont tellement variés, on s'adresse du nourrisson jusqu'à la personne âgée, on peut travailler en soins palliatifs. Vraiment, cet éventail est tellement large de population qu'on a voulu cet ouvrage vraiment pouvoir être destiné à des professionnels qui souhaiteraient approfondir cette question du vieillissement. Mais ça s'adresse également par toute personne qui se pense concernée par cette question, soit personnellement, soit à titre professionnel. Je pense par exemple à des personnes qui travaillent dans ce secteur ou bien à des élus, par exemple.
Et enfin, dernière question, selon vous, que reste-t-il à faire pour concrètement repenser la place de la personne âgée dans notre société ?
Arrêter de cloisonner par l'âge et plutôt, comme l'a dit Lucie, plutôt en raisonner en termes de handicap et de compensation, qui là, du coup, va vraiment concerner l'ensemble de la population. La place de la personne âgée, tant qu'on va cloisonner comme ça, on va traiter les choses de manière individuel, alors que ce qu'on démontre dans notre ouvrage, c'est que c'est vraiment une prise en soin, un accompagnement qui va être systémique autour de la personne, quel que soit son âge. Vous aurez des personnes de 96 ans qui vont vivre seules chez elles sans aucune aide, comme vous en aurez de 60 ans qui vont déjà présenter des difficultés qu'il faudra accompagner tout de suite. Donc la prise en charge systémique, c'est la famille, mais c'est le médecin, ça va être le voisin, ça va être le CCS, la commune. Donc on est vraiment sur quelque chose de très global et la place de la personne âgée, elle doit être vraiment diffuse et intégrée dans toutes les politiques publiques, si j'ose dire, qui concernent la place dans la société de tout un chacun. Voilà, en gros, ce serait mon idée sur la question.
Lucie, un mot à rajouter ?
Donc pour compléter ce que vient de dire Aurélie, je pense qu'il y a vraiment une question de changement de mentalité à opérer. Le vieillissement, ça fait peur. Donc, on s'en occupe le plus tardivement possible. On s'en occupe dans les situations, on l'a dit, souvent, il y a l'aggravation de l'état de santé des personnes. Et bien sûr, c'est nécessaire de s'en occuper à ce moment-là. Mais en fait, nous, on se place vraiment dans une logique de prévention et de dépistage des premiers signes. D'un vieillissement qui peut ensuite évoluer vers un vieillissement justement pathologique ou non, avec du coup ce qu'on a dit, toutes les possibilités d'aide qui peuvent évoluer et qui ne sont pas figées dans le marbre. C'est pas parce qu'on a à un moment donné besoin d'aide pour sa mobilité, par exemple, qu'on va en avoir besoin forcément tout le temps. Ça va vraiment dépendre de tout à chacun. Et derrière aussi, et ça rejoint ce que dit Aurélie, je pense que nous, ce qu'on appelle vraiment fortement de nos voeux, ce serait qu'il y ait vraiment plus de solidarité et que une personne âgée, ça concerne toute la société. Si on voit une personne âgée en difficulté, mais qu'elle soit âgée ou pas âgée, j'ai envie de vous dire, en fait, ça reste une personne dans tous les cas. Ce serait de faire en sorte que tout à chacun se sente concerné et puisse lui apporter de l'aide si elle le souhaite. Puisse se sentir en tout cas concernée parce qu'on est toutes des personnes en cours de vieillissement aussi. On va tous être confrontés tout à l'heure à cette question de l'âge, du grand âge. Et nous on a vraiment comme idée de se dire effectivement décloisonner et enlever cette vision par rapport à l'âge, mais de se dire que en fait une personne âgée tout simplement ça reste une personne à tout âge.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux de nous avoir répondu.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve bien entendu très vite pour un nouveau numéro de Vos questions, nos réponses. Et puis, continuez bien sûr à nous écouter, à nous écrire. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.